Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hissez la grande voile!
Politique, société.
Il n'y a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward, drift into the right level.
Tout le monde est à son poste?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin. La quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Ce matin, en guise d'étrenne, François Hollande a offert aux Français 2 heures d'interview sur France Inter. Politique, société, questions internationales, réponses aux auditeurs. Dès 7h, voilà notre président propulsé au titre de nouvel ami du petit déjeuner. Et là, bam, plus de langue de bois. 2015 sera l'année où l'on joue carte sur table. Les annonces ont plu dans votre poste radio puisque l'on a appris qu'en cas de croissance supérieure à 1%, la priorité ira à la réduction des déficits, que François Hollande allait tout faire pour faire diminuer le chômage, qu'une fois les zadistes fatigués, il y aurait un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes, que la loi Macron, c'est bien, qu'il y a un déj de prévu avec Angela dimanche prochain. Alors forcément, il y en aura toujours des rabat-joie pour dire qu'il ne prend pas de décision, qu'il ne se mouille pas le président, qu'il n'y a aucune surprise au petit déjeuner. Et là, je suis pas d'accord. Je m'inscris en faux, car il y a eu du scoop ce matin sur France Inter. Et la vraie nouvelle de l'interview, la voilà.
Je pense que la radio d'information, la radio qui est impertinente, la radio qui investit, la radio qui enquête, c'est pour moi de la bonne radio.
François Hollande écoute Radio Campus Angers. Ça valait le coup de se lever tôt. Merci Monsieur le Président pour ce petit clin d'œil en début d'année. Ça fait chaud au cœur.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir et bienvenue à bord du sous-marin. Tout l'équipage vous souhaite une très bonne année 2015. Que ceux qui révisent réussissent leur partiel et que ceux qui ont réussi leur partiel trouvent du travail. Alors ce soir, à 19h30, vous entendrez l'interview d'Anne-Claire Massé, illustratrice et plasticienne. Elle fait partie du collectif Héroïne qui expose actuellement à la Galerie 5 à Belbeil, une expo qui a pour titre Nana Morphose. Mais d'abord, on va apprendre à se détendre. Vous êtes à la veille de vos examens et vous n'avez pas révisé, en tout cas que l'ouverture d'huîtres pendant les vacances. Vous avez bu 17 litres de carte noire avant de vous souvenir que ça n'aidait pas à dormir. Votre frigo contient uniquement des buns et du beurre. Bref, vous êtes un gros naze en préparation physique et mentale en amont des partiels. Pas de panique. On est vraiment toujours là pour vous sortir d'une mauvaise passe.
Maud et Eric avant les examens.
J'ai le ventre à l'envers. À mon âge, ça doit être le stress des examens.
T'as vu aussi comment tu manges?
Je sais. T'as pas une solution?
Merci aux marchands de yaourt pour ce moment d'anthologie. Bonsoir Céline Riwal.
Bonsoir.
Vous êtes coordinatrice en éducation à la santé au service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé à l'Université d'Angers.
Oui, tout à fait.
Et avec vous dans le studio, Arnaud Bellotte, bonsoir.
Bonsoir Tiffaine.
Vous êtes infirmier à la direction santé publique à la mairie d'Angers.
Oui, tout à fait.
Alors, il y a d'autres solutions que de manger des yaourts pour se préparer aux examens, pour déstresser. Déjà, est-ce qu'on peut savoir à quoi est dû ce mal de ventre avant les examens, ce petit stress, ces fourmis-là? C'est dû à quoi?
Alors je dirais le mal de ventre, pas chez tout le monde. En fait, les manifestations de stress peuvent revêtir plein de formes différentes. Il y en a, ils vont avoir mal au ventre, il y en a, ils vont avoir des boutons, des plaques, des moiteurs, ils vont pas dormir, ils vont avoir du mal à manger, ou rien du tout, parce qu'on peut aussi ne pas avoir de manifestations physiques de ce stress.
Les chanceux. Donc,
des chanceux ou des qui gèrent plutôt bien ou qui sont un petit peu moins peut-être à l'écoute de leur corps, parce qu'il y a aussi des gens qui avancent et qui pensent que le stress, ça fait partie aussi de la vie quotidienne de tout un chacun, pas forcément des étudiants, et que du coup, quand on a envie de réussir et que les examens, c'est une des étapes de cette réussite, être stressé, c'est un petit peu normal. Donc voilà. Après, je dirais, ça devient un problème quand ça submerge le corps et quand on n'arrive plus à vivre avec.
Arnaud Bellotte, quelque chose à rajouter sur ces maux de ventre, ces fourmillements?
Oui, oui, bah, tout à fait, c'est exactement ce que disait Céline, hein, c'est exactement ça. Hein. Et puis, bah, de toute façon, le stress est important, il n'est pas obligatoire, mais indispensable de toute façon pour notre survie, je dirais, quelque part. C'est le fait de se sentir en danger lors des examens, en particulier pour ce soir. Et effectivement, ça va nous donner une dose de motivation supplémentaire à pouvoir le gérer et à pouvoir faire face et aller alors, soit en face, enfin, soit aller à l'oral, soit aller à l'écrit. Et c'est important de l'avoir de toute façon.
Alors avant de passer les examens, il faut réviser. Enfin, on essaie en tout cas de réviser. Est-ce qu'il y a des méthodes pour réviser de manière plus facile, plus méthodique, voilà, tout simplement ?
Des méthodes pour réviser, je pense que chacun a des astuces qu'il peut partager avec d'autres. Moi, je dirais qu'il faut peut-être pas s'y prendre trop à la dernière minute pour éviter justement cette augmentation de pression qui, à l'approche des examens, nous fait un peu paniquer en voyant la somme de travail qu'on peut avoir à fournir et la somme de choses qu'on a à ingurgiter en très peu de temps. Donc, je dirais, quelque part, l'organisation et la planification un peu des tâches sur une période assez longue permet d'abord de se dégager du temps pour soi et puis éventuellement peut-être de donner des priorités à certaines choses plutôt qu'à d'autres et d'éviter peut-être toutes les choses qui sont très chronophages et qui peuvent du coup être peut-être reportées à après les examens.
Donc on évite de réviser à la veille des partiels. Arnaud Bellotte.
Ah oui, complètement. Si vous révisez trop, alors il y a toujours quelque chose qu'on va pouvoir réviser, ça c'est sûr, hein, c'est très important. Il y a toujours quelque chose qu'on a oublié, la petite idée qui nous manque. Mais comme dit Céline, effectivement, il faut partir carrément sur un rétro-planning, hein, repartir de la date de ses examens pour pouvoir anticiper au maximum ce qu'on a besoin de réviser. Et puis, déjà dans les cours, cette façon de faire, de prendre des notes, d'écrire, d'écouter, déjà vous allez mémoriser une certaine partie et vous avez aussi le fait de ne pas perdre de temps, comme tu disais Céline, de ne pas être trop chronophage sur certains sujets. Vous les avez déjà révisés, ne passez pas trop de temps dessus, passez plus de temps là où vous avez des difficultés plutôt que de vous acharner trop facilement sur les cours que vous connaissez par cœur.
Et puis je dirais, faut aussi, quand on est sur une révision d'un cours, peut-être être pleinement concentré sur cette mission-là et peut-être éloigner, alors je sais que peut-être je vais faire hurler certains étudiants, mais éloigner toutes les sources de distraction. Si on se dit qu'on bosse pendant une heure sur le cours de je ne sais quoi en mathématiques, machin truc, on est une heure là-dessus et donc on ne répond pas aux SMS, on ne les regarde pas. Et s'il nous vient une idée ou un parasitage de quelque chose auquel il faut absolument qu'on pense, eh ben on le note sur un petit post-it à côté de nous et on y reviendra après, juste en petit pense-bête, mais on y reviendra quand on aura fini vraiment cette heure de concentration sur des choses un peu plus... pour qu'on reste bien concentré sur le cours qu'on est en train de réviser pour l'assimiler sans parasitage. C'est vraiment très fatigant d'être toujours parasité par plein des choses extérieures.
J'imagine que pendant ces périodes de révision et de pré-examen, il faut aussi avoir adopté une hygiène de vie particulière. Le son d'intro, c'était une publicité pour des yaourts. J'imagine qu'on ne mange pas que des yaourts avant les examens. Est-ce qu'il y a une alimentation particulière à respecter ? Est-ce qu'il y a des choses à éviter la veille des examens ? Des excitants, par exemple ? Ou est-ce qu'il y a des alimentations qui permettent d'améliorer la mémoire ?
Oui, il y a une alimentation... disons plutôt une boisson qui est peut-être pas forcément très conseillée lorsqu'on est en période de révision. Vous avez d'abord tout ce qui est à base de caféine, d'excitant. Qu'est-ce que ça va vous faire ? Ça va vous énerver, vous allez moins bien dormir forcément après, donc moins bien mémoriser vos cours, vous allez avoir un retard de fatigue et de sommeil conséquent, important, et donc effectivement après la concentration va se ressentir. Donc après, vous avez aussi toutes ces boissons énergisantes ou dites énergisantes que l'on peut consommer, bien sûr, sans faire de publicité. Vous en connaissez certainement, vous en consommez aussi certainement. Donc, effectivement, toutes ces boissons-là, ont tendance plutôt à vous déshydrater qu'autre chose.
Mais on pourrait dire que ça, on pourrait penser que ça va nous booster au contraire.
Bah, ça va vous booster, oui, par rapport aux produits qui sont dedans, mais pas vous booster dans le bon sens des termes. C'est-à-dire qu'au contraire, ces boissons-là sont plus ou trop sucrées ou trop énergisantes. Et effectivement, vous allez plus vous provoquer une déshydratation plutôt qu'autre chose. Vous allez penser qu'il y a une chose, c'est de continuer à boire cette boisson-là justement pour vous maintenir éveillé, pour vous essayer ou vous maintenir en bonne concentration, on dirait. Et en fait, pas du tout. Et ce manque, ça va entraîner donc une déshydratation et ce manque de d'eau et de liquide dans votre corps, ben en fait, va vous empêcher de bien vous concentrer sur vos cours, quoi, simplement, et de moins bien mémoriser, de moins bien vous concentrer sur ce que vous devez apprendre.
Est-ce que c'est grave si pendant cette période-là, bah, on n'a pas le temps d'aller faire les courses et puis on se nourrit uniquement de pizza et de choses comme ça ?
Alors, moi, je dirais que l'hygiène de vie, enfin, c'est un pas très joli mot, mais j'ai rien trouvé de mieux pour l'instant, c'est pas quelque chose qui se dégrade du jour au lendemain. C'est-à-dire que si, pendant tout le début de son premier semestre, on a eu une alimentation relativement équilibrée, relativement variée, du sommeil en quantité suffisante, c'est pas parce que la semaine qui précède les examens, on est un petit peu plus speed et qu'on a moins le temps de cuisiner qu'on va vraiment ruiner sa santé. Donc, je dirais, voilà, Si on a mangé suffisamment de fruits et de légumes, si on a bu suffisamment d'eau, mangé des choses, des féculents variés, des lentilles, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger, mais voilà, qu'on mange régulièrement, on va apporter des nutriments qui sont absolument indispensables au fonctionnement de notre corps, mais aussi au fonctionnement de notre cerveau, et qui est très mangeur de nutriments, même si on ne s'en rend pas compte vraiment. Et donc voilà, ça me semble hyper important de conserver les trois repas, même en période d'examen, et puis de pouvoir s'aménager peut-être une alimentation. Alors, si on n'a pas le temps de se cuisiner des légumes, boire un jus de fruits frais, ça peut apporter tout autant de vitamines. Voilà, choisir un peu des aliments qui seront vite prêts, mais qui permettront d'avoir une alimentation quand même. À mon avis, c'est pas un bon calcul que de se dire je vais gagner du temps sur mes révisions en mangeant pas et en dormant moins, parce que je pense que du coup le corps va s'en ressentir et on arrivera épuisé pour les examens, et c'est pas l'objectif. Peut-être il vaut mieux avoir eu le temps de lire un cours de moins mais avoir mangé et dormi suffisamment.
Alors justement, comment on fait pour trouver le sommeil alors que le stress nous ronge ? Est-ce qu'il y a des tactiques ?
Alors le stress nous ronge pas tous.
Déjà.
Et puis je dirais que le sommeil, c'est vrai que c'est peut-être l'une des choses qui se perturbe le plus facilement avec le stress. C'est vrai qu'en période d'examen, il y a beaucoup d'étudiants qui nous rapportent qu'ils ont du mal à s'endormir. Mais c'est pas forcément que lié à la pression des examens. On a un fonctionnement du sommeil qui est sous forme de cycles. Et ces cycles-là, ils n'arrivent pas par hasard comme ça en fin de soirée. C'est lié à des sécrétions d'hormones qu'on a dans notre corps. Et il y en a une qui me semble hyper importante et qu'on a tendance un peu à négliger dans notre vie quotidienne. C'est la mélatonine qui est sécrétée en fait en lien avec la luminosité qui est perçue par les yeux. C'est pour ça que l'hiver, on a plus envie de dormir quand il fait noir tôt que l'été quand il fait noir à 23h30. C'est en lien avec la perception de l'intensité lumineuse. Et quand on est devant nos écrans à réviser nos cours ou avec des lumières artificielles dans notre appartement très fortes, et ben cette sécrétion, elle peut être bloquée par notre corps. Et du coup, ben, ça induit un sommeil de mauvaise qualité ou même ça anéantit même l'envie de dormir. Donc ça peut être un des éléments auxquels il faut faire bien attention en période de révision.
Donc on coupe les écrans plus tôt ?
Alors, on coupe les écrans plus tôt ou on s'en éloigne au moins un certain temps avant de se mettre au lit, parce que si on se met au lit juste après avoir éteint un ordinateur, alors pour certains, ça n'a pas d'impact, mais pour ceux qui ont des troubles du sommeil, ça peut être une des causes.
Arnaud Bellotte, vos conseils pour trouver le sommeil en ces périodes ?
Alors, on parlait de l'alimentation tout à l'heure. Évidemment, on va manger en essayant au maximum d'équilibrer, ce qu'on parlait d'hygiène de vie, effectivement, on va éviter tout ce qui va nous surcharger de trop. Effectivement, on va peut-être pas attaquer la choucroute juste avant d'aller se coucher, vous voyez. Il faut quand même manger convenablement pour pouvoir avoir un organisme qui puisse avoir été satisfait à ce niveau-là, mais il ne faut pas non plus manger énormément, ça ne sert à rien. Pratiquer du sport, il faut pratiquer un petit peu de sport. Alors, bien sûr, comme d'habitude, pas juste avant de vous coucher. Vous savez qu'il y a un certain laps de temps avant de pouvoir redescendre de cette nervosité de sport, mais qui est très important pour pouvoir vous oxygéner, pour pouvoir vous changer un petit peu les idées. Et en période d'examen, je pense que un cerveau bien oxygéné sera aussi reposé et pourra se permettre de mieux mémoriser vos cours. Donc, c'est très important. Le changement d'air aussi. Hein, le fait d'être tout le temps enfermé du matin au soir dans la même pièce, on est confiné, l'air est vicié, on ne peut pas bien respirer, pas bien oxygéner, et effectivement, on est moins concentré sur ce qu'on peut faire. Donc, ne serait-ce que prendre 5 minutes, il faut en profiter. En plus, il ne fait pas trop froid, le terrain n'est pas trop glissant à l'extérieur, il faut en profiter. Allez faire un tour, 5 minutes, le tour du pâté de maison, vous changez d'air, changez de pièce, et puis repartir sur de bonnes bases pour repartir sur une nouvelle heure ou 2 heures de suite de révision. Hein. Mais ça fait aussi partie de l'hygiène de vie en général, en même temps que l'alimentation et autres. Et ça joue aussi, bien sûr, sur le sommeil le soir.
Ce qui perturbe aussi des fois le sommeil le soir, c'est le sentiment de pas avoir fait suffisamment et d'être tracassé un peu par l'organisation concrète. Je trouve que le système où on peut faire des petites listes de ce qu'on a à faire dans sa journée en lien avec le planning qu'on s'est fait de révision et de cocher le soir, juste avant de se coucher, tout ce qui a été fait, ça donne un côté positif. Hein. Bah, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça donne un côté positif à notre travail de la journée. Et puis peut-être que ça nous libère un peu l'esprit de tous ces tracas. Et du coup, voilà, ça permet peut-être d'arriver un peu plus serein pour une période de sommeil qu'on aménage avec, pourquoi pas, une petite infusion ou une petite lecture d'autre chose pour essayer de s'évader un peu de ce qu'on vient de réviser.
On va continuer à se déstresser avec vous juste après Fits and the Tantrums News for You. It's 6 a.m. Spreading brain. Don't know why I let you dream me this way. I've been holding on to your middle finger.
Fort. C'est vrai. Et maintenant maintenant quand je me promène dans la nuit. Je regarde la lune, les étoiles et la voiture qui passe. Et je regarde tout sans toi.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et ce soir, on apprend à se déstresser avant les examens en compagnie de Céline Riwal du SUMS à l'Université d'Angers et d'Arnaud Bellotte, infirmier à la direction santé publique à la mairie d'Angers. Alors, j'ai lu en préparant l'émission que le sexe n'était pas conseillé avant une période d'examen. L'interview précisait d'ailleurs seul ou à deux. Voilà, ça m'a étonnée. J'ai pas compris et j'aimerais savoir. Ce que vous en pensez?
Personnellement, moi, j'ai pas du tout d'avis sur le sujet. Je sais pas, Arnaud, peut-être tu peux.
Je suis assez surpris de savoir que faut surtout pas avant les examens. C'est un bon moyen de se déstresser. C'est un bon moyen de rentrer en contact avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre. Ça, il y a pas de problème de ce côté-là. Donc, non, évacuer son stress et puis ça fait partie de la vie de tous les jours. Donc, bon, s'il n'y a plus que cette période d'avant examen pour ne pas avoir de relations ni autre, bah écoutez, ça va. On n'a pas des examens tous les jours non plus, donc on va pouvoir s'en tirer. Mais non, au contraire, je trouve. Enfin, il n'y a pas de période propice. Si, sûrement l'été, il paraît que c'est plus propice aux aventures et tout, mais même avant les examens, tant que vous gardez votre lucidité après, hein, et puis de se replonger dans les révisions après pour être fin prêt justement aux oraux, aux examens écrits, mais autrement, non.
Nous voilà rassurés.
Merci. Oui.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, Arnaud Bellotte, pendant les révisions, on a quand même le droit d'aller faire du sport, de sortir, on peut se ménager du temps en fait pour. Voire des amis.
Moi, ça me semble même indispensable. C'est-à-dire que dans la planification qu'on peut se faire avec le rétro-planning jusqu'aux examens, s'aménager un temps pour les imprévus, les loisirs et éventuellement la vie sociale, ça me semble fondamental pour pouvoir accepter cette période qui va quand même être un petit peu prenante. Donc voilà, c'est ce qui permet peut-être de... Alors, survivre était peut-être pas le mot tout à fait adéquat, mais bon, voilà. C'est une période qui peut, pour certains examens, il y a des périodes de révision qui sont extrêmement longues et extrêmement intensives. Sans citer de formation, il y a quand même des formations pour lesquelles le travail doit être important. Mais ça, moi, je pense que c'est quand même indispensable de s'aménager, en fonction du temps dont on dispose, des petites plages de respiration et d'ouverture aux autres pour pas rester tout seul devant ses bouquins.
Alors, on a parlé de préparation physique. Est-ce qu'on peut évoquer la préparation mentale quand même? Parce que est-ce qu'il y a des moyens de relativiser, de positiver, de se dire que c'est qu'un examen, entre guillemets?
Alors, c'est qu'un examen, oui, effectivement. Puis, après, ça va être chacun sa philosophie. Moi, j'ai une philosophie, qu'on s'inquiète ou qu'on ne s'inquiète pas, de toute façon, il va falloir le faire. Donc, autant ne pas s'inquiéter, c'est de la fatigue de moins, de la concentration qu'on va pouvoir déplacer vers ce qu'on va justement vers l'examen à faire. Donc, voilà. Après, chacun va trouver son propre leitmotiv, son propre petit message, mais c'est exactement ça. Tant pis, c'est un examen, ce n'est pas que un examen, c'est un examen, il faut aussi le réussir. Ça fait partie, bien sûr, des obligations. On n'est pas là pour aller à un examen pour échouer, c'est pas la priorité, bien sûr, c'est de le réussir, mais à partir du moment où on va mobiliser ses connaissances, on connaît toujours quelque chose, on sait toujours quelque chose, on va donner le meilleur de soi, on va se faire confiance, on va donner le meilleur de soi devant l'examinateur, devant sa feuille, et puis voilà, mais stresser davantage, ça ne résoudra pas le problème et ça ne fera pas avancer soit l'entretien, soit l'oral, soit l'écrit.
Et puis, je pense que le stress, ça fait partie de la vie quotidienne. Et passer ses examens, ça peut être un moment stressant. Mais quand on va rentrer dans le monde du travail, qu'il faudra gérer une vie professionnelle, une vie familiale, une vie personnelle, ça sera aussi des sources de stress différentes, mais qui arriveront aussi les unes les autres. Donc, peut-être apprendre à le gérer dès maintenant, c'est plutôt positif pour son avenir et sa construction de vie d'adulte. Donc, je pense que après, toutes les techniques et toutes les astuces qu'on peut s'échanger entre étudiants pour essayer d'optimiser un peu cette période, bah, c'est bon à prendre parce qu'il y en a plein qui ont des petites astuces et des conseils à donner aux autres. Donc, voilà.
Nous voilà. Alors, ça, justement, attention des commentaires des autres. C'est pas parce que ça s'est mal passé pour l'un que ça va forcément mal se passer pour vous. Hein, quand vous sortez d'un oral, oh là là, l'examinateur est comme ça, oh là là, j'ai pas réussi et tout, oh, c'est une catastrophe. Mais c'est la personne qui était avant vous. Vous, c'est vous. Faites-vous confiance, allez-y.
Alors, le matin de l'examen, on a peut-être mal au ventre, on a peut-être mal dormi, on a peut-être, on estime peut-être pas avoir assez révisé, qu'est-ce qu'on fait ?
Eh bien, on essaie d'oublier toutes ces mauvaises pensées négatives et on s'installe devant un petit déjeuner parce que ça me semble important d'essayer de quand même de nourrir ce corps qui va travailler pendant un petit moment à la hauteur de ce qui peut passer. Il ne s'agit pas non plus de se mettre devant la choucroute d'Arnaud parce que visiblement...
Ah bah c'est l'époque, hein. J'aime bien.
Du coup, voilà, prendre une boisson, manger quelque chose, un produit laitier, un yaourt si ça passe, des céréales ou du pain si ça passe aussi. Et puis, se prévoir peut-être des petits encas en fonction de la durée de l'épreuve pour pouvoir éviter l'hypoglycémie parce que le cerveau mange beaucoup de sucre quand il travaille. Donc, peut-être avoir sous le coude des fruits secs ou des choses qui ne vont pas évidemment être compliquées à manger ou tâcher la copie, mais des petites choses qu'on peut manger facilement. Avoir une bouteille d'eau aussi à proximité, parce que quelquefois, voilà, on a besoin de s'hydrater. Il fait quelquefois aussi chaud dans les salles. On est nombreux tous en ébullition. Donc, voilà, essayer de... Et puis, s'habiller avec des vêtements confortables, hein, parce que ça me semble aussi important. On n'en a pas parlé pendant la période des révisions, mais la position dans laquelle on est devant son poste de travail, c'est hyper important, parce que ça peut être source de fatigue pour les yeux, pour le dos. Et si on n'a pas une bonne chaise avec un bureau bien installé ou qu'on est devant son écran un peu bancal, ça sera des sources de fatigue supplémentaires. Donc, que ce soit pour la période de révision ou pour la période de l'examen, eh ben, on prend le temps de s'installer correctement dans sa chaise et puis on prévoit des vêtements suffisamment amples qui nous permettent d'être à l'aise et pas serrés parce que c'est une source d'inconfort supplémentaire.
Arnaud Bellotte, dernier conseil le matin de l'examen.
Le matin de l'examen, je dirais même juste avant l'examen, carrément. Il y a d'abord la respiration. C'est une chose à pratiquer, je pense... Sans aucun problème, c'est-à-dire de prendre de grandes respirations avant que vous rentriez dans la pièce, hein, que ça soit pour un oral face à un examinateur ou même pour un écrit, hein, ça paraît tout bête, mais la respiration est très importante. Simplement, ce temps, justement, si nous prenons l'exemple d'un écrit, juste avant de commencer, au lieu de vous précipiter sur une feuille et d'essayer de la remplir à tout prix, prenez le temps déjà de respirer profondément deux ou trois fois. Prenez le temps de 2 à 3 minutes. Oh, c'est 3 minutes de perdu. Non, c'est 3 minutes peut-être de perdu parce que vous n'avez pas commencé en même temps que les autres, mais vous allez prendre ce temps pour pouvoir justement récupérer toutes vos idées, mettre en place tout ce que vous savez. Et donc, surtout en même temps, de prendre le temps de lire les énoncés. Ça, c'est quelque chose, on passe très très vite dessus. Le stress, justement, nous fait oublier de lire correctement un énoncé. Et vous allez passer à côté du mot-clé, de la phrase qu'il fallait faire attention, et vous risquez le hors-sujet. Donc, en prenant le temps de respirer, vous allez mobiliser vos connaissances, vous allez vous tranquilliser, vous déstresser, et partir sur de bonnes bases. Si vous partez tête baissée directement à répondre quelque chose à l'écrit, voilà, c'est perdu d'avance. L'oral, ça va être exactement la même chose. Vous avez le temps entre la porte, quand vous rentrez justement devant votre examinateur, pour aller jusqu'à l'examinateur, vous avez le temps de respirer, vous avez le temps de prendre de grandes respirations pour pouvoir vous présenter devant quelqu'un en étant déstressé, en étant calme. Si vous arrivez tout essoufflé, tout énervé, effectivement, vous allez perdre la moitié de vos connaissances. Donc, vous avez encore ce temps, justement, de pouvoir respirer profondément pour pouvoir vous mettre dans la meilleure situation possible.
Arnaud Bellat, tous ces conseils, on les retrouve jeudi midi sur le campus de la Cato.
Oui, effectivement, oui. Alors, je ne sais pas trop comment ça va se passer, c'est encore pour une surprise, mais on va le savoir. Donc, là, je ne suis pas stressé du tout pour savoir comment ça va se passer, mais c'est exactement ça. On sera, a priori, dans le hall de Jeanneteau, si je ne me trompe pas. Et là, nous vous proposons, avec l'infirmière de l'UCO, Nathalie Béchet, de vous venir en aide, justement, pour vous donner un petit temps afin de vous déstresser. Alors, justement, par la respiration, rediscuter avec vous de comment s'est passé les révisions. Et puis, je vous propose en même temps de vous faire un petit massage des mains.
Ça, c'est pas mal.
C'est agréable.
Céline Rioual, au SUMS, on peut venir vous voir pas seulement pendant les périodes d'examen.
Oui, tout à fait. Nous, on ne fait pas d'action particulière au moment des examens. On essaie d'avoir des actions de prévention sur les sites où les étudiants font leurs études tout au long de l'année, alors sur l'alimentation, sur le sommeil. Et puis, pour ceux pour qui cette pression devient insupportable physiquement ou qui sont malades de ces examens, il y a des consultations individuelles. Donc, on peut avoir sur rendez-vous au service de médecine préventive qui sont gratuites, c'est compris dans les frais d'inscription à l'université. Alors, c'est valable pour les étudiants de l'université d'Angers, mais c'était valable aussi pour tous les étudiants dont l'établissement a passé convention avec le service. Donc, ça représente un certain nombre d'étudiants, dont font partie les étudiants de l'UCO, par exemple. Et donc, vous avez des médecins généralistes, des infirmières, des psychologues, un psychiatre... une diététicienne, bon, en période d'examen, c'est peut-être un peu moins primordial, mais et un centre de planification qui permettent de recevoir les étudiants tout au long de l'année pour quel que soit le motif pour lequel ils sont malades.
Merci beaucoup, Céline Rioual et Arnaud Bellat, d'avoir été dans le sous-marin ce soir.
Merci bien.
Merci à vous.
shadow of yourself. There is somebody home. There's someone in your head. You think you're paranoid. I can tell by your face. There is somebody home. There's someone in your head.
C'était DBFC avec Leave My Room.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Depuis le 12 décembre dernier, le collectif Héroïne expose à la Galerie 5 dans la bibliothèque universitaire de Belle Bay. Une exposition intitulée Nanamorphose est consacrée à la femme. Anne-Claire Massé fait partie de ce collectif. Thomas lui a téléphoné cet après-midi.
Bonjour Anne-Claire Massé, vous présentez en ce moment à la Galerie 5 l'exposition Nanamorphose, au programme dessin, photographie, installation, collage, des disciplines diverses au service des différentes représentations de la femme, stéréotypées avec humour ou au contraire fidèles à la réalité, mais surtout insoupçonnées. Alors il s'agit de la première exposition du collectif Héroïne. Est-ce que le projet Nanamorphose est à l'origine du collectif ou au contraire c'est le collectif qui est à l'origine de cette exposition ?
Non, c'est tout à fait ça. C'est avant tout le projet d'exposition, en fait, qui a donné lieu à la création du collectif. Ce sont que des gens qui ont déjà une pratique depuis plusieurs années, des amis, des connaissances, des collègues, des compagnons de route. Et puis, on s'est associés, en fait, en collectif sur ce projet-là.
Nanamorphose réunit beaucoup de disciplines différentes aux méthodes diverses. Alors, comment est-ce qu'on fait pour réunir autant de disciplines ? Comment est-ce qu'on fait pour trouver un terrain d'entente ?
Le terrain d'entente, il était simple en fait, c'est que des gens qui sont engagés dans leur pratique artistique et puis engagés aussi socialement, qui participent à beaucoup d'événements. Donc ça, c'était un peu le terrain commun entre nous tous. Et puis moi, j'avais vraiment envie qu'il y ait une multiplicité de pratiques. Je trouve ça très très intéressant et important que les choses se mettent en relief les unes les autres en fait. Donc ça s'est fait tout seul, ça s'est fait assez facilement. Le point de départ, c'était le féminin, la féminité. Voilà. Et chaque artiste s'est emparé de cette thématique-là et l'a développée à sa manière.
Et pour ça, la galerie, c'est donc le meilleur champ de bataille pour exprimer ses idées ?
Oui, bah complètement. Surtout la galerie 5, parce que c'est vraiment un espace très grand qui permet vraiment de pouvoir développer. Chacun a pu développer sa démarche comme il l'entendait. On n'était pas limité par l'espace. Donc c'est vraiment un bel espace intéressant à travailler, avec des contraintes aussi, puisque c'est aussi la bibliothèque bibliothèque universitaire, donc il ne faut pas faire de bruit, il y a des gens qui passent, donc on est aussi un petit peu mis, quelque part, on est mis en scène quand on installe, mais voilà, c'est un lieu qui est assez intéressant.
Alors vous avez initialement insufflé le projet, mais l'exposition s'est construite progressivement avec de nombreuses participations ainsi que des partenaires. Comment chacun est venu apporter sa touche en dehors justement des œuvres qui sont proposées ? Est-ce qu'il y a eu du dialogue au préalable ?
Alors, oui, bien sûr, ne serait-ce que trouver le titre. Voilà, on s'est rencontrés plusieurs fois, on a échangé un peu chacun sur nos démarches propres. On a vu qu'il y a des choses aussi qui se croisaient. Et puis ça s'est construit petit à petit, chacun s'est un peu a construit de son côté. Et puis après, on a mis ça en commun. Mais chacun a travaillé un peu dans son coin, finalement. Mais pour la globalité, pour le catalogue, pour tout ce qui était communication, on a travaillé ensemble, on a pris des décisions collectives.
Le thème de cette exposition, c'est donc la femme. De quand date le choix du thème et pourquoi avez-vous choisi celui-ci ?
Le choix, il était à la base, en fait, il s'est fait très très vite. Moi, personnellement, c'est une thématique que j'aime travailler, que je travaille depuis longtemps. Et puis, justement, j'avais envie de voir comment d'autres artistes pouvaient réagir, des artistes hommes et surtout et femmes, enfin les deux. Ce qui m'intéressait, c'était aussi qu'il y ait une parité. On a quand même, on est presque à la parité sur cette exposition. C'est une expo féministe, mais pas féministe. Enfin, c'est pas, c'est une conception assez contemporaine du féminisme. C'est quelque chose qui est important que maintenant les hommes et les femmes travaillent ensemble pour construire la société à venir, la société actuelle. Donc il s'agissait pas du tout qu'il y ait que des paroles féminines, mais aussi un regard masculin, ça c'était important.
Alors vous le disiez juste avant, c'est un sujet que vous avez déjà abordé et c'est un sujet qui a été de nombreuses fois exprimé. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de tomber dans le déjà vu ? Comment est-ce que vous faites pour dire quelque chose de nouveau dans le cadre de cette exposition ?
Alors c'est sûr, peut-être qu'il y a des choses qui font écho à des choses qui se sont déjà faites, mais après, chaque artiste travaille de manière très intime aussi avec ce qu'il est, avec son parcours, avec son propre regard. Et en partant de ce point de vue-là, on se dit qu'on va peut-être réinventer des choses nouvelles. Je sais pas, on est aussi empreint de plein d'images, on a une culture aussi, chacun, enfin... On est aussi remplis de notre culture. Je ne sais pas s'il y a des choses novatrices ou pas, ou des redites. J'en sais rien. Mais chacun a construit ça avec sa propre sensibilité et son propre regard, en tout cas.
Ouais, c'est ça. En tout cas, il y a cette idée que chacun participe en fonction de ses souvenirs, de son ressenti.
Voilà, son propre regard. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ce qui fait qu'on a plusieurs thématiques à l'intérieur de cette thématique de la féminité. Voilà, il y a les arts ménagers, il y a la femme violente, il y a la femme intime fragile, il y a aussi la religion, enfin la sexualité, il y a beaucoup de choses différentes.
L'exposition Nanamorphose traduit donc fantasmes, stéréotypes et forces féminines par le biais de l'humour ou encore d'images fortes. Nanamorphose, c'est un jeu de mots avec nana, donc un terme argotique, on va dire, pour définir la femme, la fille. Et Anamorphose, qui est en fait une méthode de détournement de l'image, du dessin. Est-ce que c'est aussi l'occasion de détourner l'image de la femme ou au contraire, on veut rester fidèle au propos ?
Le propos, il n'est pas unique, en fait. Il est vraiment multiple. Donc, nous, ce qu'on voulait, Nana, on voulait faire quelque chose d'assez abordable. On fait pas partie tous de la sphère d'art contemporain. On est vraiment, on vient beaucoup de l'édition aussi. Enfin, on voulait vraiment une exposition très abordable, aussi pour le grand public, facile à comprendre. Et en même temps aussi très subtile. Donc Nana, c'est ça. C'est la Nana, quoi. C'est le mot un peu populaire. Et puis il y a le côté anamorphose, qui est aussi une vision. Finalement, c'est regarder la femme d'un certain point de vue. Et c'est là qu'on la voit telle qu'elle est, quoi. Donc le titre, c'est le mélange de ces deux mots-là.
Quelles étaient les envies et les règles à suivre donc pour rester fidèle aux propos, enfin pas aux propos, mais aux divers propos, on va dire, qui tournent autour de la femme.
Il n'y avait pas de directive, hein, vraiment pas. L'idée, c'était que chacun puisse être très libre. Hein. C'est ce que je voulais, moi. C'est vraiment pas qu'on s'oriente sur un propos ou un message. Ça, c'est vraiment pas ce qu'on voulait. C'était de la liberté. Que chacun puisse avoir de la liberté.
Ma prochaine question est sûrement très cliché, hein, je m'en excuse d'ores et déjà, mais les hommes et les femmes ont des sensibilités qui sont très différentes, et les artistes qui partagent l'exposition sont des hommes et des femmes, mais le sujet reste le même, la femme. Alors de quelle manière leurs travaux diffèrent ou ne diffèrent pas peut-être ?
Alors je suis pas sûre que les hommes et les femmes aient une sensibilité si différente. Justement, le but c'est de montrer que finalement c'est pas si différent que ça. Après, peut-être que les thématiques, peut-être que les hommes ont mis plus d'humour aussi, un peu plus de dérision, j'ai l'impression en tout cas. Peut-être qu'ils sont plus partis des clichés. La femme objet, par exemple, ça a pas mal été travaillé par les hommes. Après, j'ai pas envie de défendre cette idée justement que les hommes et les femmes sont si différents. Je pense qu'ils s'associent, peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait le même point de vue, mais c'est avant tout des individus, quoi. Donc qu'ils soient hommes ou femmes, Je pense que c'est avant tout des individus. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous.
Avant de mettre en place ce projet, vous avez effectué des études aux Beaux-Arts et à la Faculté d'Arts Plastiques de Rennes. Ouais. Dans quelle mesure ce parcours vous a aidé à monter l'exposition? Est-ce que ça vous a orienté vers le choix de Nanamorphose?
Eh bien, déjà, les gens en fait qui font partie de l'exposition sont pour la plupart des gens que moi j'ai rencontrés lors de mes études. Donc déjà, c'est pas mal. Et ça fait déjà une vingtaine d'années. Donc c'est des gens qui démarraient tous aussi quand ils avaient 20 ans, quoi. Donc pour ça, peut-être que voilà, c'est un point de départ. Sinon, les études, ça a été une chose, mais c'est le parcours avant tout qui a fait qu'on s'est tous affirmés dans nos pratiques. Je pense que les études, ça nous a aidés quand même à mettre en place une pratique artistique, trouver une démarche personnelle. Mais après, c'est les années de travail qui ont suivi, qui ont fait qu'on a affirmé chacun ces démarches-là. Donc, il y a aussi des gens qui sont venus, qui sont un peu autodidactes hein, dans le collectif ou qui n'ont pas fait des études liées aux arts plastiques. Donc, c'est un peu multiple. Hein, c'est pas forcément, on n'est pas tous issus de l'École des Beaux-Arts.
J'aimerais faire une halte sur la disparition d'une des œuvres de Fred Zanzim, présente sur place, en l'occurrence Femme à roulettes, si je ne m'abuse.
Je vous remercie d'en parler, j'allais le faire.
Ah, je vous en prie.
Je voulais le faire.
Alors, l'œuvre aurait été volée. Il y a eu plusieurs dégradations au sein de musées ces derniers temps. Alors, il y a eu notamment le vol d'une couverture d'Arakiri à Rennes, le vandalisme au musée d'Orsay sur un tableau de Monet, ou encore la dégradation d'une peinture du XVIIe siècle au musée des Beaux-Arts d'Angers, là, récemment, dans le cadre de la Nuit des étudiants. Alors, selon vous, est-ce que l'art devient trop accessible, pas suffisamment protégé? Quelles mesures on doit prendre et qu'est-ce qu'on doit dire aux voleurs?
Alors, par rapport à la femme à roulette, déjà, de Zanzim, j'ai envie de dire aux voleurs, ben, maintenant que vous avez bien profité d'elle, rendez-la nous. Il faut la rendre, il faut la ramener à la galerie, d'une manière adroite, pour que le voleur ne se fasse pas prendre, mais rendez-la nous. Voilà, c'est bon. Ça, c'est par rapport à l'anamorphose. Après, que l'art soit trop accessible, non, je pense que l'art ne sera jamais assez accessible. Après, il y a toujours des gens qui, je ne sais pas, qui prennent ça comme des défis, ou peut-être des fous, ou peut-être des gens qui ne respectent rien, je ne sais pas. Moi, je trouve ça uriner sur une toile, j'ai du mal à comprendre l'acte. Pour moi, c'est de la bêtise, ou de la folie, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais l'art ne sera jamais assez accessible, ça c'est sûr, non. Il ne faut pas qu'on mette les choses, faut pas qu'on fasse de la surprotection. L'art, c'est fait aussi pour être proche des gens. Nous, c'est ce qu'on voulait aussi dans la Galerie 5. Voilà, finalement, il y en a un qui en a profité. Mais comme il est très intelligent, il va nous la rendre, la femme à roulette. J'en suis persuadée.
Et dans ce cas, il vaut mieux prendre le risque, du coup, de s'exposer à ces problèmes comme de la dégradation ou du vol pour justement permettre aux personnes d'accéder.
Ça fait partie du jeu de l'exposition. À partir du moment où on expose, on donne un peu aux autres, quoi. Et voilà, ça fait partie. Si on n'a pas envie de prendre le risque, on reste dans son atelier. Après, heureusement que les gens sont en majorité assez respectueux quand même, parce que il y a aussi, je pense que les gens se rendent pas compte du temps de travail, de l'investissement. Se faire voler ou détériorer, se faire voler un travail, c'est se faire voler un bébé, quoi. Enfin, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais il y a quand même une atteinte, quoi. Enfin, ça a été pour la personne, pour l'artiste et pour l'ensemble du collectif, ça a été vraiment dur en fait de se rendre compte de ça, quoi. C'est vrai que c'est pas rassurant, mais on n'a pas envie de créer un amalgame. C'est une personne qui était mal intentionnée. Heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Restons ouverts et positifs. Hein. Non, je pense que c'est quelqu'un qui s'est dit, c'est un défi, c'est accessible. C'est aussi un lieu qui est particulier, qui fait partie d'une bibliothèque. Je montre que je suis très fort. Je sais pas, il y a quelque chose d'assez immature dans le geste.
À propos d'ouverture, le 7 février de 9h30 à 12h30, on pourra vous retrouver dans le cadre d'un atelier dessin. Alors, comment se déroulera cet atelier et comment est-ce qu'on fait pour y participer?
Alors, j'ai envie d'amener les personnes à pouvoir exprimer une idée assez intime par une image. Comment, en un dessin, on peut exprimer une idée? Donc, ça va être déjà de trouver quelque chose d'assez personnel à dire sur la thématique. Et puis, comment on peut trouver des codes graphiques pour exprimer cette idée-là? Voilà, ça va être là-dessus. Donc quelque chose d'assez personnel en fait au niveau de l'expression. Voilà, on aura 3 heures. On fera un petit tour de l'exposition. Moi, je montrerai un petit peu aussi mes dessins. Et puis, j'expliquerai comment je travaille, comment je passe de l'idée à la représentation graphique. Et puis, j'amènerai les participants à faire quelque chose de similaire. Mais vraiment à leur idée, quoi. Vraiment, qu'ils puissent exprimer quelque chose de personnel. C'est ça qui m'intéresse. Et même si on ne sait pas bien dessiner, c'est pas grave. On apprendra aussi à dessiner de manière très simple.
Élodie Ancelin, qui participe également à l'exposition, exprime sur son blog l'envie d'emmener Nanamorphose à Rennes ou encore à Nantes. Quels sont les projets autour de ce thème aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie d'aller hors les murs, ailleurs que dans une galerie, dans une autre ville?
Alors complètement, là on a des pistes. Je pense que la prochaine exposition Nanamorphose se passera à Nantes. On dit encore rien parce que voilà, pour l'instant ce ne sont que des pistes, et puis peut-être à Rennes aussi, et peut-être à Paris, ailleurs, enfin on a des propositions qui arrivent en fait. Et puis ce qu'on aimerait aussi, c'est pouvoir faire participer des gens du cru, venir gonfler un petit peu notre exposition, et puis à créer une soirée vernissage événement, comme ce qu'on a fait dans la Galerie 5, puisqu'on avait on avait les danseurs du CMDC, et puis une autre performance d'Alexandra Racapé et Amandine Etelage, qui sont venues danser et écrire. Enfin, le but, c'est aussi de créer un événement autour du vernissage, parce que souvent, les vernissages, c'est un peu tristounet, on s'ennuie. Donc là, on a envie aussi de proposer une soirée festive, voilà. Donc, je pense qu'on va poursuivre dans cette direction-là.
Eh bien, merci Anne-Claire Massé pour votre participation.
C'est moi qui vous remercie beaucoup.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
L'exposition est donc à découvrir à la Galerie 5 jusqu'au 27 février prochain. La perle de ce soir, ça se passe au GECO rue Rabelais avec un concert de Nathaël Herry dès 21h. L'interprète en juin mise sur la chanson française. À votre bon cœur, monsieur, dame, c'est un concert au chapeau. On termine avec l'éternelle bulle sonore. Le journaliste en juin, Alain Machefer, nous a quittés fin décembre. Il avait été directeur départemental de Ouest-France et était venu nous présenter l'année dernière dans le sous-marin son ouvrage Angers, la machine à perdre, juste avant les élections municipales. Il avait alors séduit le sous-marin entier par son écoute, sa justesse et sa pédagogie. Alain Machefer évoquait ici les biographies des candidats à l'élection municipale brossées dans son livre, et plus particulièrement celle du désormais maire Christophe Béchu, lui qui avait dit plus jeune « je serai président de la République ».
Ces portraits au long cours, c'était un plaisir de découvrir à quel point... On parle des deux principaux, mais les autres aussi. Mais à quel point ces jeunes-là, hein, parce que ils ont 40 ans, à peine, même pas, à quel point ils se préparent depuis toujours. Effectivement, il y a cette ambition-là, mais ça, c'est aussi, ça peut être une réflexion de gamin ou de jeune homme. N'empêche que si, ça a aussi été sa façon de se construire. Et c'est vrai que ce travail-là, je suis assez content et assez fier parce que on voit comment ces jeunes se sont bâtis une colonne vertébrale de futurs politiques. Alors pas avec forcément l'ambition, parce que quand on raconte cette histoire de je serai président de la République, ça fait un peu prétentieux. Non, pas. C'était pas vécu comme ça et c'était pas fait comme ça. Il était passionné déjà par la chose publique. Ses copains disaient bon, c'est vrai que au lycée il avait le monde sous le bras. Ça aurait pu faire celui qui se la pète, quoi. Ben non, on sentait qu'il cherchait le débat, le dialogue avec nous, y compris souvent, bien plus avec des gens dont il était opposé par rapport à ses valeurs ou ses engagements politiques déjà, qu'avec ses vrais copains, pour se forger son argumentaire, pour vérifier qu'il était dans ce qu'il défendait, quoi.
Dans un instant des 20h, vous retrouvez Ostros Mundos, une balade autour du monde orchestrée par Michel. Nous, on se retrouve demain à 19h. Nous recevrons Sabrina Septi, chargée de mission égalité à l'Université d'Angers. Merci à Thomas et merci à David pour la réalisation. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.